Et en fait, sa théorie, c'est d'expliquer qu'on a besoin de s'ennuyer ou on a besoin de moments où, en fait, vraiment, on met son téléphone dans un placard fermé à clé.
Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, et en exclusivité sur In Power, je reçois Lorenzo Benedetti, producteur et entrepreneur, mais aussi professeur à Sciences Po. C'était un de mes profs au dernier semestre et c'est le cours que j'ai préféré, donc j'avais vraiment envie d'enregistrer un épisode avec lui. Lorenzo a un parcours qui ne ressemble à aucun des invités que j'ai pu recevoir jusqu'ici. Il a d'abord commencé en étant salarié au sein du groupe France Télévisions, où il travaillait à la direction des programmes, avant de s'essayer à l'intrapreneuriat et de créer des projets indépendants au sein d'une même boîte, ce qui est, je trouve, un moyen vraiment efficace de savoir si l'entrepreneuriat vous convient et vous attire, et de sauter le pas si c'est le cas. C'est ce qu'a fait Lorenzo en fondant par la suite le Studio Bagel, une boîte de production et agence de talent que vous connaissez peut-être, car c'est là où notamment Natou, Mister V ou encore Marion Séclin ont fait leur début. Un très beau succès entrepreneurial, couronné par un rachat par Canal+, et Lorenzo a beaucoup à nous partager de cette expérience très riche professionnellement, mais aussi humainement, et notamment les conseils qu'il aurait à se donner s'il devait recommencer aujourd'hui. Désormais à la tête de sa boîte de production, non plus dans la vidéo, mais dans l'audio, Lorenzo nous partage comment il essaye sans cesse de se renouveler, de s'adapter aux évolutions de la société, voire même de les anticiper. Et aussi, il nous partage toute une série de conseils pratiques en tant que recruteur pour aider les personnes qui sont actuellement à la recherche d'un emploi. Je vous rappelle aussi que désormais les épisodes d'InPower sont disponibles en best-of sur YouTube si vous voulez ajouter l'image lors de l'écoute de nos conversations ou simplement écouter ou réécouter les principaux enseignements partagés dans cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les nouvelles vidéos au fur et à mesure et vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast. Et si vous appréciez l'écouter, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir. Et je suis heureuse de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Lorenzo. Bonjour Lorenzo.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur InPower. Il faut quand même que je fasse un petit disclaimer au début de ce podcast. Lorenzo est un de mes profs à Sciences Po, enfin était du coup, donc je suis ravie de le recevoir parce qu'il a un parcours hyper inspirant. Bah, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Merci de m'inviter. Alors je suis producteur et créateur de contenu. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la production de contenu, dans le digital, dans la télévision et maintenant dans le podcast, dans l'audio. Donc je vis une espèce de mise en abîme là, parce que je participe à ton podcast, donc, alors que je produis des podcasts. Moi je produis plutôt des podcasts documentaires et de fiction dans un studio qui s'appelle Paradiso. Ouais. Voilà, et j'ai aussi deux enfants et je suis marié et j'ai un parcours plutôt tourné vers l'entrepreneuriat puisque j'ai commencé assez tôt à créer des boîtes.
Tu vas nous raconter ça. Est-ce que tu peux nous raconter déjà qui était Lorenzo à 18 ans ?
Lorenzo à 18 ans, c'était, je pense, un garçon qui se posait beaucoup de questions déjà sur son... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po. Alors après, l'histoire drôle, c'est que je me suis retrouvé aussi à donner des cours, effectivement, juste après. Mais à 18 ans, je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais une famille qui était très... qui était dans un parcours très académique avec un père médecin, une mère chercheur et des frères et sœurs qui étaient tous scientifiques. Et donc moi, je me suis tourné vers les sciences humaines, donc c'était déjà un peu une forme d'acte de rébellion. Et puis ensuite, j'ai choisi, je pense, de faire du droit puis Sciences Po parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, je ne sais pas toi si tu avais une idée très arrêtée quand tu es rentré à Sciences Po, mais en tout cas, cette école te permet de procrastiner encore un petit peu plus vite, tu vois, et de te dire
de repousser
le moment du choix ultime. Et moi, le moment du choix ultime, j'ai vraiment repoussé jusqu'au bout du bout du bout, jusqu'à même encore parfois aujourd'hui me demander si je suis pas en permanence en train de choisir, tu vois, des nouvelles routes. Là, le podcast, c'est une nouvelle route qui s'est ouverte il y a un an et demi. Et donc, pour revenir à ça, voilà, j'étais un peu perdu et j'ai beaucoup essayé de trucs. C'est-à-dire que après mon bac, donc j'ai fait du droit. J'ai fait un stage dans sa cabinet d'avocat en pénal. Enfin, tu vois, je me suis retrouvé à lire des dépositions avec des choses assez horribles dedans. Je me suis dit, non, en fait, je sais pas trop, mais je vais quand même continuer dans le droit. Après, je me suis dit, je vais essayer de m'échapper du droit. Et donc, Sciences Po, c'était une forme d'échappatoire, encore une fois, pour repousser un peu l'échéance du choix. Et à Sciences Po, en rentrant, j'ai raconté un énorme bobard. C'est-à-dire que j'ai dit que je voulais compléter ma formation juriste, tu vois, par une formation sciences humaines. Enfin, à chaque fois, on joue une forme de rôle pour m'amener un petit peu au point suivant. Et ensuite, à Sciences Po, j'ai essayé 1000 trucs. Okay. Du journalisme, à la sociologie, en passant par un stage chez Universal Music de presque 9 mois. Okay. Moi, je me suis vraiment ouais. beaucoup cherché, toujours dans un domaine qui était quand même la culture et l'intérêt pour les contenus, si tu veux, mais en étant perdu assez longtemps.
Et quand tu dis que tu as essayé plein de choses, après ce que je comprends, c'était vraiment en termes professionnels. C'est-à-dire que ce n'était pas juste des cours, tu n'as pas fait juste des cours de journalisme, sociaux, etc. Tu as fait des expériences professionnelles à chaque fois dans les secteurs qui t'intéressaient.
Bah, j'ai fait des percées, du moins. C'est-à-dire que je me passionnais pendant 6 mois sur l'univers de la musique. Et bon, déjà, j'étais musicien aussi en parallèle, donc ça m'aidait à me mettre dedans. Je jouais de la batterie et je rêvais un petit peu d'être musicien. Et j'avais une espèce de haute image des boulots dans les maisons de disques. Je pensais que tout le monde était derrière une console, tu vois, à pousser des petits boutons et à dire « Attends, on la refait, machin. » Et en fait, c'était pas du tout ça. Donc, du coup, je faisais des percées dans un univers. J'étais déçu. Et je revenais en arrière, je me disais, merde, je pensais que c'était le rêve de ma vie, mais en fait, pas du tout, tu vois. Et du coup, c'était un peu, une espèce d'échec comme ça permanent, où tu te dis, bon, en fait, tu t'es vraiment planté, mon gars. Après, c'est pareil, j'ai fait le concours du CFJ. Je suis arrivé dans les admissibles, mais pas dans les admis, bon, voilà. Mais pareil, pendant 6 mois, je me suis, mis en mode, t'es Albert Londres, tu vois. Donc, du coup, j'ai lu tous les bouquins, j'ai lu. Pareil, j'ai eu une marotte sur Juge. À un moment donné, j'avais la bio d'Eva Joly que je trouvais hyper inspirante. Du coup, j'étais à bloc là-dessus. Je lisais tout ce qu'il pouvait y avoir sur les juges. Et voilà. Et tu vois, je faisais des percées comme ça. Donc, c'est un petit peu les deux, tu vois. Je prenais le truc hyper au sérieux, mais en même temps, j'avais pas de réelle expérience, sauf peut-être quelques stages ou quoi. Mais voilà. Du coup, j'allais un peu de déception en déception comme ça.
Ça, c'est vraiment un truc, je pense, on s'en rend pas assez compte, c'est vrai, du différentiel qu'il peut y avoir entre l'idée qu'on se fait d'un métier et la réalité. Et je pense que tout le monde gagnerait à, en effet, vérifier avant de se lancer dans un domaine que ça nous plaît vraiment, tu vois, parce qu'on peut se faire happer assez vite. Et de toutes les personnes que j'ai pu recevoir sur le podcast et un peu de prise de recul, j'ai l'impression que soit faut que tu te mettes à fond dans un truc genre à 14 ans. Et donc, en fait, t'as un peu le truc du cœur d'enfant où après, c'est quelque chose que tu gardes toute ta vie.
Bien sûr.
Tu vois, exemple, pâtissier ou cuisinier, tu vois. C'est
des vocations, quoi.
Voilà, des vocations, mais j'ai l'impression que les vocations, tu peux les créer. Hein. Moi, j'ai un peu cette théorie-là où si peut-être tu t'étais mis à fond dans la musique à 13 ans et que tu vois, t'avais bouffé musique, machin, et que tes parents t'avaient soutenu, machin.
Oui, on te socialise à les encourager.
Voilà, exactement.
Parce que si mes parents m'avaient dit, oh, la musique, c'est super, continue, peut-être que j'aurais été socialisé, tu vois, à me mettre dans la musique à fond et ça serait devenu presque familier, je me serais senti bien dedans, je serais resté.
Tu serais pas posé de questions, mais, alors qu'il y a tellement de barrières aussi de l'extérieur que l'extérieur peut nous mettre, que parfois, en effet, j'ai l'impression que les gens qui ont le plus de mal, c'est ceux qui, justement, ne savent pas jusqu'à genre 25 ans ce qu'ils veulent faire. Et où un peu là, il y a une telle attente, du coup, il y a une telle attente de « il faut que je trouve
». Oui, mais c'est aussi parce que je pense que, en tout cas, beaucoup plus de ma génération, parce que j'ai 40 ans, c'est vrai que je n'ai pas dit mon âge, ça c'est un petit secret que je voulais garder, mais qui ne s'est pas gardé très longtemps. Donc j'ai 40 ans, mais je pense qu'on a une génération différente. Et je pense qu'à mon époque, il y avait encore plus cette idée de carrière, un côté définitif du choix.
C'est vrai.
Tu vois, où tu embrassais une carrière d'avocat, de juge, d'ailleurs, peut-être tous les métiers que je t'ai cités, bon, à part peut-être travailler dans une maison de disque, mais sont des métiers qui sont un peu des institutions en soi, tu vois. Et en plus, moi, je viens d'une famille où les métiers, c'était des institutions, tu vois, genre médecin, machin, tout ça. Donc, je cherchais peut-être ça. Et en fin de compte, j'étais peut-être un peu trop en avance sur mon époque, dans le sens où aujourd'hui, moi, je trouve que vous avez alors, à la fois beaucoup de courage, parce que de vivre dans cette situation et de se construire et de faire ses études et tout, c'est vraiment, vous êtes des super-héros. Et en même temps, vous avez la flexibilité de vous dire, bon, bah, je peux être un peu tout. Enfin, je peux être journaliste, comme tu l'es là, je peux être entrepreneur, entrepreneuse, monter une marque, être prof demain, écrire un bouquin. C'est pas grave, en fait, de pas avoir de profession. Et d'ailleurs, c'est pas grave de ne pas... Moi, mon problème pendant un moment, ça a été de... Quand j'étais dans un dîner de famille, j'ai une très grande famille, j'ai 7 frères et une sœur, c'était de raconter mon boulot. C'était une angoisse.
Je sais pas si toi,
quand on fait des métiers un peu difficiles à définir.
Ouais.
C'est pour ça que tu vois, j'ai commencé par dire producteur, parce que pour moi, c'est une image un peu comme ça.
Genre, ça veut rien dire
et tout. Ça veut rien dire et tout dire. Tu vois, t'es producteur, ok, mais producteur, ça veut dire quoi? Tu fumes le cigare, t'as un fauteuil en cuir, c'est quoi?
Caméra, un micro, les deux, ok.
Et donc, du coup, on a cette volonté de se réduire et de se résumer parce qu'en fin de compte, on est en permanence en train de se pitcher. D'ailleurs, le cours qu'on a, dans lequel on s'est rencontrés, c'est ça aussi, de se dire comment on se raconte. Comment on raconte une histoire, mais c'est aussi comment on se raconte soi, quoi.
Ouais,
donc comment on se pitch.
C'est toi qui as choisi ce cours, l'intitulé et tout
Alors, pas vraiment. Enfin, ça s'appelle donc l'intitulé pour, évidemment, parce que c'est que 25 personnes par an. Donc, je pense que tes auditeurs et auditrices et comment dire, spectateurs ne connaissent pas. Donc, c'est un cours qui s'appelle Storytelling. Storytelling digital, je crois, d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'est un cours sur comment on structure... quelles sont les règles de la narration, à la fois dans les séries, dans les films et dans les bouquins, enfin dans tout ce qu'on aime consommer de culture, et ensuite comment ça vient être perturbé par le monde dans lequel on est aujourd'hui, et comment ça vient être... comment ça s'entrechoque, en fait, comment on redéfinit ces règles-là.
Ok. Bon, alors du coup, si on reprend un peu le fil de Lorenzo qui repousse le moment, quand est-ce que Lorenzo fait son choix et trouve, peut-être, je sais pas si à ce moment-là tu t'es dit, ok, c'est là, cette carrière dans laquelle... Enfin, c'est dans cette carrière que je veux me lancer. Ou est-ce que tu t'es juste à te dire à un moment, bon, il faut que je choisisse et on verra plus tard?
En fait, j'étais vraiment une espèce de surfeur des opportunités pendant assez longtemps. Et en fait, ce qui m'a déterminé, c'est... je me suis déterminé aussi, et c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de se déterminer, peut-être que t'auras peut-être des choses à dire là-dessus, je me suis déterminé dans le regard des autres. Je me suis construit aussi parce qu'on voyait en moi quelque chose. Donc, j'ai eu une opportunité de rentrer à France Télévisions à la direction des programmes. Donc, je ne savais même pas ce que c'était qu'une direction des programmes. En gros, c'est les gens dans les chaînes qui décident des projets qui se font et qui deviennent ou pas des émissions, des documentaires.
Ton premier job, c'était des programmes.
Non, ce n'était pas directeur des programmes. J'ai travaillé à la direction des programmes. Donc, je bossais avec le directeur des programmes.
D'accord.
Et du coup, cette personne-là m'a... Du coup, c'est donc Alexandre Michelin qui du coup a vu en moi un collaborateur qui pouvait lui apporter quelque chose avec des qualités, et du coup dans son regard je me suis dit ok, peut-être que je suis fait pour ça, tu vois, mais c'est pas moi qui me suis dit je vais vraiment travailler dans une direction de programme, parce que je ne savais absolument pas. D'ailleurs, à l'époque, j'avais déjà rencontré ma Julia, qui est devenue ma femme, et je lui ai demandé, puisque elle avait fait un stage à France 2, je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'on fait dans une direction de programme, et elle m'avait briefé en fait avant. Et donc je suis arrivé là-dedans, et donc c'est la première fois où je me suis amené dans l'audiovisuel, et je suis arrivé dans l'audiovisuel. Et ensuite, d'une expérience à l'autre, je me suis affirmé petit à petit, mais en fait, je ne suis pas allé droit au but. L'objectif, je pense, ultime, c'est de créer soi-même ses propres contenus, être créateur de contenu, être créateur de concepts, d'idées, ce qui m'intéresse au final, d'être créatif le plus possible. Mais j'ai commencé par quand même être le plus loin possible de ça, puisqu'au final, tu choisis les projets des autres dans une direction de programme, mais tu ne fais pas toi-même des projets.
Ouais.
Donc j'ai fait ça, puis ensuite j'étais producteur pour une autre société de production, de celle de Nagui, l'animateur qui est tous les jours sur France 2.
Ouais. Donc il a sa propre
société de production qui s'appelle Air Production, qui fait partie maintenant d'un groupe qui est très gros, qui s'appelle Banijay, qui est un des plus gros groupes de production dans le monde, enfin je crois le plus gros d'ailleurs. Et Nagui, il a continué de me donner confiance en fait en moi, et de voir aussi en moi des qualités et des qualités créatives, des qualités éditoriales. Et il m'a donné, aussi de l'autonomie, parce que j'ai pu produire aussi des programmes moi-même. Donc j'ai bossé sur les Victoires de la musique à l'époque, où j'étais passionné de musique. Et donc du coup, tu vois, t'imagines la synthèse entre ce qui me plaisait et ce que j'étais arrivé là. Donc à cet objectif-là, je pense, qui était de fusionner les deux. Et puis ensuite, je ne suis pas resté très longtemps et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc assez tôt, je pense que je devais avoir 26 ans.
Ah ouais,
27 ans, ouais.
Ouais. Super. Et c'était du coup là le studio Beagle, ton premier,
non, après j'ai monté une société de prod dans un groupe.
Ouais.
Petit à petit, tu vois, vraiment à chaque fois c'est prendre de la liberté, mais petit à petit.
Ouais.
Je pense que du coup ça montre que je suis pas quelqu'un de très courageux au final, même si quand on dit t'es entrepreneur, c'est tout de suite les mots qui te viennent, c'est dur, c'est courageux, etc. Mais au final, moi, j'étais d'abord salarié, puis ensuite intrapreneur, donc entrepreneur dans un groupe dans lequel j'avais un label, qui est un groupe qui s'appelle Newen. Donc j'avais ma petite cellule, je faisais mes programmes, mais j'avais quand même un salaire qui tombait tous les mois, tu vois. Et puis, ensuite, j'avais bien confiance à 27-28 ans et je me suis lancé tout seul.
Ok, là, pour le coup. Ouais. Bah, franchement, moi, je ne dirais pas que ça manque de courage, je dirais que c'est intelligent, quoi, parce que du coup, t'as appris à maîtriser le métier, t'as appris à chapeauter tout ça, et une fois que t'avais assez confiance et assez d'expérience, tu t'es dit, ben ok, maintenant je peux voler mes propres ailes, et je pense qu'on gagnerait, tu vois, peut-être tous à... Enfin, je sais pas, parce qu'après, il y a aussi, t'apprends en te trompant,
oui, et puis
tu vois,
toi, mais... chacun sa voix aussi. Toi, t'as, par exemple, d'ailleurs, ça m'intéresse, toi, tu t'es lancé... Donc parce que t'étais étudiante, et donc jusqu'à pas très longtemps.
Ouais.
Et du coup, à quel moment tu t'es dit, genre, je vais pas chercher un boulot, en fait?
Bah, en fait, c'est vrai que du coup, sachant que j'ai commencé à gagner ma vie en étant encore étudiante, ça m'a paru logique. Tu vois, je me suis dit, bah, en fait, je vais pas aller chercher du taf alors que là, je fais ce que je veux, entre guillemets, hein, parce que tout le rythme hardcore qui va avec aussi. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, en fait. C'est... Tu vois, à partir de ma troisième année, j'ai commencé à gagner ma vie.
Il n'y a même pas des gens qui t'ont proposé, d'ailleurs, de prendre un boulot, justement. Parce qu'il y a beaucoup, justement, d'agences maintenant qui se disent, tiens, on va aller recruter des gens qui ont réussi à constituer des communautés et d'ailleurs à les monétiser, quoi.
Bah, j'ai travaillé avec plutôt des amis entrepreneurs, en fait. J'ai un think tank pour My Little Paris et tout, mais c'était plus des missions.
Ouais.
Donc, je me suis dit, bah, au pire, oui, je serai consultante, entre guillemets. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, bah, je vais créer des projets. Et puis, au final, mon podcast, il date de 2018.
Ouais.
Donc, tu vois, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs à ce moment-là. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à gagner ma vie. Donc, je me suis dit, bah, OK, en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de créer après qu'il y ait des opportunités financières qui me permettent de vivre de ces projets.
Ouais.
Et après, la marque, c'est juste venu d'une envie de diversifier.
Bien sûr.
Mais bon, là, tu vois, je suis typique dans la période où tu commences à avoir pas mal de merde.
Ouais.
Et je me dis, OK, j'ai quand même voulu aller très vite, quoi.
Bah, c'est le moment. C'est
je dois,
le moment
je dois accepter qu'en fait, tout ne peut pas aller parfaitement et que tu vas apprendre et que tu vas grandir.
C'est le moment où je pense qu'il faut aussi... C'est pour ça que quand tu parlais de... Je pense que ça t'a vachement, à mon avis, aussi décomplexé de rencontrer des gens, de voir que dans les parcours, tu vois, moi, ce que je te raconte, c'est que je commence par vraiment ne pas savoir où je vais et au final, bon, j'arrive quand même quelque part, même sans savoir.
vous arriverez quelque part,
non, mais
si
voilà,
vous nous écoutez.
T'arrives toujours quelque part, au final.
Ouais.
Mais et du coup, je pense que ça, enfin, mon témoignage ou d'autres témoignages peuvent te décomplexer et te dire, OK, au final, c'est pas très compliqué, quoi. C'est pas si risqué que ça, parce qu'au final, t'as toujours un filet de sécurité.
Ouais.
Ce que tu as réussi à construire pour toi, tu pourras le construire pour d'autres et pour des boîtes qui en profiteront, en fait. Donc,
Et puis surtout, moi, je m'accroche aussi à mieux voir des remords que des regrets. C'est-à-dire
aussi,
au moins, t'essayes et t'as toujours la possibilité d'apprendre, d'évoluer. Et tu vois, même, je trouve qu'il y a des... J'admire aussi les marques, tu vois, qui ont su, ou les entreprises qui ont su pivoter, qui avaient genre vraiment Marcel en tête en se disant « on va faire ça ». Et en fait, peut-être que ça, c'était pas ce que le marché attendait, et qui du coup ont réussi à s'adapter et à en ressortir encore plus fort, tu vois. Parce que ça, c'est plus difficile à accepter, en fait, quand toi, t'as envie de lancer un truc et qu'en fait, c'est pas reçu comme t'attendais. Ou...
Et ce qui est compliqué, et là, je fais un saut dans le futur, mais enfin, dans le futur, dans le présent pour moi, mais du coup, quand on était dans le passé, ça devient du futur. Vous suivez ou pas ? C'est que, en fait, quand t'es dans une entreprise avec des gens encore plus, avec des salariés, aujourd'hui, nous, on est une vingtaine dans la boîte, bah, en fait, ils veulent un plan.
Ouais.
Ils veulent une direction, ils veulent des objectifs, ils veulent qu'on leur dise je travaille et je sais ce que je dois faire cette année. Et donc c'est presque antinomique avec parfois l'agilité, enfin tu vois l'agilité et la flexibilité
day to day de l'entrepreneuriat.
Et puis même de se dire en fait on s'est trompé, on va pas dans le bon sens. Donc il faut avoir aussi là, le courage de dire bon bah en fait c'est toujours plus rassurant pour les gens de dire vous inquiétez pas, on va là-bas.
Ouais.
Mais sauf que si là-bas, c'est pas du tout il faut que t'ailles parce que tu sais que ça marche pas, bah, il faut aussi avoir le courage de rembobiner et de dire OK, en fait, on s'est trompé.
Et
on doit prendre un autre chemin et d'expliquer tout ça. Et donc, c'est beaucoup d'efforts émotionnels parce que c'est avoué en fait que tu t'es trompé et c'est avoué en fait que voilà, qu'il faut se remettre en cause tout le temps, quoi. Donc, ça, je pense que c'est aussi, je pense que c'est une leçon quelque part d'essayer de tâtonner, d'être flexible et de se dire il faut pas faut avoir des certitudes parce que sinon tu ne peux pas manager sans quelque part montrer un chemin, mais il faut aussi savoir les remettre en cause, quoi.
Ça t'est déjà arrivé cette situation où t'as changé de voie et t'as emmené ton équipe ailleurs que là où c'était prévu?
Bah là typiquement oui, cette année c'est ce qu'on fait, enfin moi, j'ai monté... par exemple, autre exemple, j'ai terminé ma carrière dans la télé chez Canal+, où j'ai monté le studio Bagel juste après tous les épisodes que je t'ai racontés. Le studio Bagel, ça a cartonné. Et au final, typiquement, le studio Bagel, il y a un bon exemple de ça. C'est que la première année, le studio Bagel, c'était une chaîne avec une dizaine de talents dedans et on faisait des vidéos avec ces talents-là. Bon, je me suis rendu compte que c'était un super projet, évidemment, que ces talents-là étaient très moteurs. Mais que maintenir une cohésion de groupe pendant longtemps, ça allait être compliqué. Parce que c'est 10, c'est comme une équipe, quoi. Donc, à un moment donné, tu as des joueurs qui veulent aller jouer ailleurs, etc., tu vois.
Et en plus, il y a la visibilité. Enfin, tu vois, c'est encore plus que des gens qui travaillent à côté.
Exactement. Il y a la notoriété qui vient mettre un peu... Déjà, j'imagine, pour toi, c'est un truc à gérer. Et tu vois ce que ça peut avoir dans ta vie ou chez tes proches. Là, c'est un espèce de catalyseur à émotion. Donc, à ce moment-là, alors que le plan, c'était quand même de développer un média autour de ces personnalités-là, on s'est dit, on va peut-être essayer plutôt de réfléchir à un réseau. Et l'idée est venue complètement par hasard. Je n'avais pas du tout prévu de créer un réseau de chaînes, tu vois. J'avais plutôt prévu de faire un média, parce que moi, j'étais dans ma logique d'avant, tu sais, un peu linéaire, tu vois.
Ouais.
Et donc, quand tu commences à discuter avec des YouTube, avec des gens qui, à l'époque, travaillaient avec moi... Et de voir un peu d'autres expériences, de voir qu'à l'époque, il y avait Machinima, il y avait Believe, il y avait des réseaux comme ça qui se créaient un peu de manière thématique. C'est à ce moment-là, j'ai shifté complètement. Et je me suis dit, OK, on va faire un réseau. Donc, on va être un peu moins concentré sur un groupe de talents, mais on va essayer plutôt d'embrasser largement un positionnement plus large de réseau dans le divertissement. Et on a commencé à signer d'autres talents. Et ça a fait beaucoup de bien à l'ensemble, puisqu'au final, on a amené des nouvelles recrues... Et ça a donné des surprises, puisque tu vois, typiquement, je fais un jump. Ma dernière expérience à Canal+, c'était une série audio, paradoxalement, diffusée à la télé. Canal avait dit que c'était la première série sans images. Donc, c'est une série qui s'appelle Calls. Donc, je vous avais parlé un petit peu pendant le cours, parce que ça a été hyper intéressant pour moi de comprendre déjà que le talent qui était à l'origine de ce projet, c'est Timothée Hochet et Clémence Setti, qui était sa co-scénariste. Mais Timothée, je l'avais rencontré justement parce que j'avais élargi les vannes du studio Bagel et que j'avais amené des gens qui étaient des réals, que je m'étais mis à financer d'autres chaînes, d'autres comptes. Et Tim, il m'avait amené des courts-métrages, il avait amené des courts-métrages à mon équipe, on lui avait financé. Donc en fait, tu vois, par presque la théorie du chaos, quoi, se dire qu'en suscitant une espèce de désordre, que tu penses être du désordre, au final, dans ta stratégie, bah, t'as une part de... Au final, l'histoire t'apprend que t'as bien fait, quoi.
Ouais.
Et si j'avais pas rencontré Timothée, j'aurais pas produit Calls et j'aurais pas monté Paradiso, puisque Calls est une série audio. Et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que l'audio, c'était... Alors, toi, tu le sais depuis longtemps, parce que t'étais plus...
2018.
Depuis 2018. Moi, c'était à peu près à ce moment-là. Mais Paradiso, je l'ai monté en 2019.
Ouais.
Et je pense qu'on a bien fait, parce que c'était pile le moment où... Il y avait un marché du podcast qui était en train de se structurer avec des plateformes comme Spotify, etc., qui est Audible et Deezer et Cybelle qui commençaient à poindre avec des budgets et des volontés de faire des choses nouvelles, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment... Enfin, je pense que... Et d'ailleurs, ça peut être un défaut. Moi, je suis peut-être parfois un peu trop curieux. C'est-à-dire que il y a des structures, il y a des entreprises qui ont des focus hyper... tu vois, concentré sur un domaine. Moi, je suis l'expert des bougies parfumées, tu vois, et c'est très bien. Mais nous, en tant que studio de talent, enfin qui recherche des talents et qui travaille avec des talents, si on a des a priori, c'est compliqué de faire notre métier. On est un peu comme un fonds d'investissement, tu vois, qui va miser tantôt sur une société qui va faire un produit A, tantôt sur une société qui va faire un produit B. Et c'est dans la richesse de tout ça que va naître quelque chose de vertueux.
Après, ouais, c'est sûr, bah, pour l'instant, ça t'a plutôt bien réussi vu que t'as évolué de l'univers média, vidéo à audio. Du coup, pour revenir à ton expérience intrapreneuriale, qu'est-ce qui te décide à te dire en fait, je veux quitter le monde de l'entreprise et me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, quoi?
Bah, je pense que c'est le truc le plus pénible quand t'es quand t'es jeune, à l'époque j'étais jeune, et que t'as une volonté d'affirmer tes idées, c'est que des gens te contredisent.
Ouais.
Et en fait te disent voilà, j'ai pas envie que tu fasses ça. Donc en fait là après t'as deux manières de voir le truc. Quand on te dit j'ai pas envie que tu fasses ça, soit tu dis bah ok, d'accord, tu payes mon salaire tous les mois, fair enough.
Ouais.
Soit tu dis bah ok, bah c'est pas grave, tant pis, merci, au revoir, et puis on reste copains, quoi.
Ouais.
Ce qui s'est passé d'ailleurs, je suis parti très bien, rupture conventionnelle, tout ce qu'il faut et tout ça. Les gens qui sont là-bas sont encore des gens que j'estime énormément. Ils m'ont laissé partir et voilà, et j'ai monté mon truc. Et ça pouvait ne pas marcher, mais bon, ça a marché pour le coup, parce que j'ai trouvé cette idée après avec donc Axel Malivernet et Jérôme Niel. Donc Jérôme Niel, que vous peut-être, enfin, tes auditeurs connaissent, puisque c'est Jérôme Niel, quoi, qui a un compte sur Instagram, vous irez voir, c'est très drôle, et qui a fait les tutos, qui a fait tout un tas de vidéos au Studio Bagel. Et donc, c'est avec Jérôme et Axel, qui était un peu son acolyte et son vidéaste, comme les personnes qui sont là, hein, qui filment ce qu'on dit. Lui, c'est devenu un peu les piliers du Studio Bagel, et avec eux, on a monté le projet. Mais encore une fois, c'était des rencontres. Et si j'avais pas fait Tel France et Newen, j'aurais pas rencontré Jérôme et Axel, parce que je les avais contactés pour développer un projet de série et qui s'est pas fait au final. Donc tu vois, c'est à chaque fois, je pense que se dire, il y a des moments où tu fais des rendez-vous avec des gens où tu te dis ça va nulle part, et puis tu laisses ça de côté, et puis 6 mois après ou 1 an après, tu te dis mais en fait, si je rappelais cette personne, parce que là, par rapport à ce que je suis en train de travailler maintenant, ça fait vachement écho.
D'où l'importance, c'est vrai, de saisir les opportunités, et c'est un truc sur lequel j'arrive pas à me positionner actuellement.
Ouais, je te comprends.
Ouais. Parce que, ouais, du coup, bon, c'est particulier parce que je suis très sollicité. Ouais, non, mais surtout que je suis très sollicité. Et du coup, j'aimerais dire oui à beaucoup de choses, sauf que je peux pas, j'ai pas le temps. Et en fait, c'est typique un truc que me dit mon copain parfois, c'est il me dit, mais en fait, tu
fais trop de trucs.
C'est vrai que, ouais, et surtout, il me dit aussi, tu dis non à trop de choses, à trop de gens. Et en fait, j'essaie de lui expliquer ma position, parce que bah, forcément, c'est difficile quand on la vit pas. Mais je me dis qu'il a peut-être pas tort, et que parfois, en fait, c'est vrai que c'est terrible. On entre dans une logique presque d'utilité, où en fait, je suis obligée de dire oui si je suis sûre que bah, derrière, ça m'apportera quelque chose, tu vois. Et dit comme ça fait hyper cynique. Mais en fait, si demain, une abonnée m'envoie un message, « Salut, on prend un café », enfin, j'adorerais, mais je peux pas. Enfin, tu vois, j'ai pas le temps de prendre ma douche. J'essaye de trouver le temps chaque soir à 1h du matin.
C'est un peu chaud.
Mais, et en même temps, parfois, je me dis « Mais c'est horrible, parce que du coup, je rate peut-être plein de choses, tu vois. »
Oui. Après, en fait, je pense que... Enfin, après, je veux pas te... Enfin, je pense que t'es vraiment capable de définir une stratégie pour ton business, mais moi, à ta place, la question que je me poserais, c'est dans quelle mesure je peux essayer d'utiliser la notoriété et le succès que j'ai dans un domaine pour, on va dire, être une espèce de panneau solaire pour nourrir d'autres talents, d'autres logiques, d'autres énergies, et donc de quelque part aussi, toi, transmettre un peu ça à d'autres. Donc, moi, dans mon cas, c'est exactement ça. On avait une vitrine qui était le Studio Bagel, et je me suis dit, non seulement j'ai ce problème dont je t'ai parlé de est-ce que ça va durer longtemps, mais en plus de ça, j'ai plein d'opportunités que je ne peux pas saisir parce qu'elles ne correspondent pas à ces gens-là. Donc, comment je fais? Elles ne correspondent pas à ces gens-là parce que ça peut abîmer leur image, parce que ça ne correspond pas du tout en termes de ligne édito. Enfin, c'est comme toi, il y a des gens qui te marquent, tu vois, qui te proposent un truc, mais t'es en affinité, bien sûr, avec les valeurs de la marque, parce que je pense que ça, c'est la base. Mais par contre, t'as pas le temps. Et puis, t'as pas spécialement envie, parce qu'il y a aussi cette envie-là. Qu'est-ce que t'en fais de ça? Est-ce que ça va ailleurs? À qui ça va? Et comment tu crées quelque chose qui te permet d'adresser ses besoins, quand même? Tu vois, une agence, ouais, ou je sais pas, enfin, une structure.
Non, mais après, j'avais un peu réseau, réussi. J'avais un peu réussi avec les événements Girls in Biz que j'ai lancé, c'était en septembre 2019. Et du coup, je m'étais dit, c'est notamment grâce aux auditrices du podcast, je dis auditrices parce que j'ai reçu beaucoup plus de messages de femmes qui me disaient qu'elles avaient des idées, des projets, qu'elles aimeraient bien échanger avec moi pour avoir mes conseils. En fait, malheureusement, j'avais pas du tout le temps, j'avais même pas le temps de répondre à leurs messages, tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais me prendre une soirée par mois où on se rencontre, où je peux les aider, leur donner des idées, juste essayer de partager, transmettre mon expérience, et aussi qu'il y ait une mentor qui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui peut partager aussi ses conseils. Et franchement, j'adorais ça. J'adorais les événements Girls in Biz. Genre vraiment, tu sais, il y a peu d'activités où je vois pas le temps passer. Typique, c'en était une. Et puis, le Covid. Donc voilà, là, on réfléchit à comment le faire en mode virtuel. Peut-être online, tu vois. Mais ouais, je trouve qu'il y a un truc qu'on peut pas supplanter à la présence physique de l'échange. Donc ouais, c'était une façon que j'avais trouvé, mais c'est vraiment un truc où parfois je me dis je rate peut-être des choses, et puis après je me dis bon, de toute façon je peux pas m'attarder là-dessus trop longtemps, hein, bon, je fais juste le maximum, quoi.
Et après, moi j'ai été exactement dans ton, avec, je pense, moins de sollicitations personnelles, évidemment, parce que mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été aussi là-dedans quand, par exemple, t'as une société de production ou t'as un studio qui commence à marcher, t'as une boîte qui commence à marcher, bon bah t'as un appel d'air énorme, quoi. Et t'as cette tendance à vouloir tout embrasser. Tu vois, t'es vraiment dans un... T'es un gros gourmand, comme moi, dans un magasin de chocolat, et tout est gratuit, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu manges du chocolat. Donc, tu te retrouves dans cette situation-là. Et donc, comment après faire le tri. Et donc après, enfin, nous, maintenant, moi, ce qui m'aide là-dedans, à l'époque, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et peut-être que, du coup, tu échoues aussi beaucoup plus parce que tu veux tout accepter. Donc, tu as des choses que tu fais moins bien. Mais c'est aussi pour ça que maintenant, je me suis entouré de gens. Et donc, j'ai rencontré mes deux associés, Louis et Benoît. Louis, qui bossait chez Combini avant, il était directeur des contenus. Et Benoît, il était chez Havas dans une agence et il était producteur de contenu aussi. Et je pense que c'est vachement intéressant de travailler en équipe. Enfin, pour le coup, ouais. Là, tu me disais que tu avais aussi une collaboratrice, c'est ça, enfin,
Oriane, big up, si tu nous écoutes.
Tu as une équipe, donc c'est intéressant. Vous êtes deux, mais c'est déjà une équipe.
Ouais.
Et c'est bien d'échanger sur tes priorités. Enfin, moi, en l'occurrence, avec mes associés, on échange sur où on veut aller. C'est quoi notre objectif commun. Et puis, et c'est ça qui fait le tri au final. Parce que moi, évidemment, je dis oui à tout. Enfin, tu vois, j'ai envie.
Quelqu'un
tu vois.
Pour tempérer.
Ouais. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des contrepoids et d'avoir des gens aussi qui ont d'autres envies pour te dire et pour te donner un espèce de recul et te dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu, enfin, pourquoi on perd du temps à faire ça ou pourquoi on fait ça. Et toi, tu t'en rends pas compte sur le moment parce que tu te dis c'est génial et puis en même temps. C'est les gens m'aiment, tu vois, les gens t'envoient de l'amour parce qu'ils s'intéressent à toi. Et du coup, t'as pas envie de leur dire, bah non, en fait, ça, c'est difficile de, tu vois, faire ce passage de dire non et de dire non aussi pour les bonnes raisons et de savoir le justifier.
Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un travail de tous les jours. Hein. De toute façon, c'est un arbitrage, quoi. C'est un arbitrage à faire. Je me demandais si au studio Beagle, t'avais aussi le rôle de manager, de talent ou pas du tout. Ou c'était parce que à l'époque c'était flou. Hein. C'était quoi? C'était 2010, 2015.
Ça a commencé en 2011. Ouais. Et c'était jusqu'en 2016, vraiment 17, très actif. Et après.
D'accord.
2018, j'étais un peu en transition. Et après 2019, j'ai fait autre chose, comme je t'ai raconté. Mais oui, donc en fait, au début, cet univers de l'influence et des chaînes YouTube était très flou. Il n'y avait pas, par exemple, Mixicom, Webedia n'était pas encore allé là-dedans, pour te dire. Il y avait M6 qui avait Golden Moustache, puis c'est Golden Network. TF1 était à peine là-dedans, puisqu'en fait, ils sont venus là-dedans parce qu'ils ont. Désolé, c'est une petite parenthèse écho, c'est peut-être un peu relou pour tes auditrices, mais en gros, bref, il y avait très peu de monde qui était investi dans cet univers.
Ouais.
Donc au final, les frontières étaient un peu floues et oui, je me retrouvais à la fois être producteur, mais aussi à être manager, même si on n'avait pas le statut de manager et qu'on prenait pas de com sur les rémunérations personnelles des talents. On prenait bien sûr des frais de production et on produisait, si tu veux, les vidéos.
Ouais.
Mais la rémunération à manager, ça prend une commission, tu vois.
Ouais.
Nous, on faisait pas ça. On n'était pas agent, on n'était pas manager. Mais on avait les mêmes problématiques. On était nounou, si tu veux. Et donc, ça allait de choses hyper triviales, de « tiens, je ne sais pas comment remplir ma déclaration d'impôt » à « j'ai besoin qu'on me prête une caméra pour faire une vidéo ». Enfin, tu vois, des choses hyper variées.
Ouais. Ouais, c'est une sorte de management. Vous aviez qui comme talent sur Beagle, peut-être pour que les personnes qui nous écoutent puissent s'en rendre compte
Il y avait Natou, Mister V. Donc, Mister V, il avait déjà une chaîne, mais il nous a rejoints. Et Natou, elle a commencé, elle avait à peine une chaîne, elle a commencé vraiment à être connue aussi avec le studio Beagle. Kemar, Jérôme Niel, dont j'ai parlé, Monsieur Poulpe, puis Alison Wheeler aussi nous a rejoint la deuxième année. Après, il y a eu Baptiste Lorbert, Gaël Mektoub, Grégory Guillotin, qui fait ses pranks maintenant. Est-ce que j'en oublie? Putain, si j'en oublie, je vais recevoir des textos d'insultes.
Non, mais ça donne
voilà,
une idée.
Tu vois, Marion Séclin, évidemment.
Ouais.
Et puis voilà, enfin après il y a plein de gens qui ont participé. Après en fait le studio Beagle aussi c'était un réseau, donc comme je te l'ai dit, donc il y a eu aussi les Yes Vous Aime avec Bertrand Huskla qui fait Brute, qui marche bien en ce moment. Les recettes pompettes, je sais pas si tu te souviens,
c'était
une émission une émission de cuisine, tu regarderas sur internet.
Okay.
Enfin voilà, plein de choses qu'on a fait diverses et variées, de l'animation aussi avec les Cassos.
D'accord.
Une série d'animations, enfin plein de choses différentes, plein de choses, et c'est ça qui était marrant aussi.
Ouais, c'est sûr. Bah déjà c'est ta première expérience vraiment entrepreneuriale, donc je pense qu'il y a le côté je sais pas, est-ce que tu te voyais arrêter un moment, parce que j'ai l'impression que quand on lance un projet on se dit ok c'est bon, j'y suis pour la vie entière, c'est génial.
C'était vraiment j'étais défini par ce projet. C'est assez compliqué parce que quand tu, moi avant j'avais bien sûr gagné ma vie et très bien, mais j'avais pas fait un projet qui m'avait rendu visible. Et à l'époque, même si aujourd'hui c'est un peu tassé, mais à l'époque j'avais eu une visibilité. En tout cas, dans l'univers audiovisuel, les gens savaient qui j'étais, connaissaient ce que je faisais, etc. Donc c'est un peu perturbant parce que tu accèdes à un statut un peu de différent, quoi. Mmh. Tu vois, et ça biaise tes relations avec les gens, puisqu'il y a des gens que tu connais pas qui ont un avis sur toi.
Ouais, c'est sûr.
Alors,
ouais.
Positif ou négatif. Mmh. Mais quand même, tu vois, c'est bizarre. Mmh. Dans la vie, ça t'arrive pas, tu vois, en général.
C'est vrai qu'en fait, comme moi, ça fait déjà 4 ans.
T'es habitué.
C'est vrai que du coup, ouais, je...
Tu t'en fiches.
Je m'en fiche, j'ai pas le choix, ouais. Déjà. Mais c'est vrai que je m'étais pas dit. En effet, parfois, on rencontre des gens, on sait rien d'eux. Enfin.
Ouais.
Non, mais c'est vrai. Et j'ai envie de dire, il y a quand même les réseaux sociaux. Même si t'es pas extrêmement suivi,
oui, tu peux stalker
quoi. Ouais. Donc,
Oui, je suis d'accord. Mais après, du coup, ça. Pardon, j'ai perdu le fil. Excuse-moi, un, deux,
t'inquiète.
Trois. Je te disais ça pourquoi ?
Tu me parlais de c'est la première fois que les gens te connaissent, t'as un nom visible.
Oui.
Et du coup, ça change ton statut, quoi, un peu de.
Oui, ça change ça. Et du coup, en fait, ça biaise un peu ta relation aussi aux gens et à tes choix. Et donc, en fait, ça te définit tellement que tu te dis toute ta vie, tu vas faire ça. Parce qu'en fait, c'est tellement devenu une étiquette.
Ouais.
Qu'en fait, tu te dis comment tu vas sortir de ce truc-là. Mm. Et tu y penses. Donc moi, quand ça s'est arrêté, parce que j'ai décidé aussi que ça s'arrête, parce que j'ai quitté Canal, parce que je me suis dit, ça me correspond plus, je me voyais plus trop évoluer dans un groupe. Bon, pour être aussi transparent, j'avais gagné de l'argent en vendant la boîte, puisque j'ai vendu ma boîte au groupe Canal.
Et c'était donc, quand ça, juste en termes de
timeline ? C'était en 2014. Et donc, je l'ai vendu en 2014 et je suis resté pendant 4 ans de plus. Parce que
quand
tu vends une boîte, t'as une espèce de,
de
SAV, quoi.
Ouais, passage de flambeau et
exactement.
Tout.
Exactement. Tu dois faire en sorte que l'investissement soit,
Et ça,
soit sur la durée.
Ça a été une décision difficile à prendre, la vente, ou pas ? Parce que vous étiez 3, du coup, associés ?
Non, alors on n'était pas 3 associés, on était 2 boîtes. Alors je ne t'ai pas donné tous les détails parce que je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas on avait 2 sociétés de prod.
D'accord.
Qui avaient investi au début de l'argent, donc la mienne et une boîte qui s'appelle Black Dynamite. Et c'était eux les actionnaires, parce que c'était nous qui étions allés chercher l'argent auprès de YouTube et de l'investissement aussi de nos boîtes. Et donc les talents avaient été bien sûr payés tout au long de la production, des programmes, etc. Mais quand est venue l'idée de la décision de vendre, comme le projet était plus gros que Studio Bagel, puisqu'il y avait le réseau dedans, c'est nous qui décidions, tu vois,
d'accord.
Donc Black Dynamite et moi. Donc on a décidé de vendre, parce qu'on s'est dit, il y a trop de concurrence sur le marché qui arrive, il y avait Webedia, entre-temps, il y a eu plein de boîtes, tu vois.
Ouais.
Et on s'est dit, oulala, on va se perdre, quoi.
Ouais.
Et donc Canal+, c'est toujours d'ailleurs une boîte qui projette énormément de positifs sur les séries qu'ils font, tu vois. Là, je suis en train de mater OVNI en ce moment. Enfin, ils font toujours des choses hyper iconoclastes et intéressantes. Et ça nous faisait rêver, tu vois. Et parce qu'on voulait faire de la série et du cinéma.
Ouais. Donc, c'était un acteur logique
pour
vous aider dans cette voie-là à grandir.
Donc, ça n'a pas été difficile. Ce qui a été difficile, c'est un sujet que tu auras peut-être à vivre. C'est de rentrer dans un groupe, quoi. De vendre ta boîte et de devenir... Bah, du coup, de revenir dans une situation où... On peut te dire non.
Ouais.
Tu vois ? Alors que jusqu'à présent, c'était pas le cas.
Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être là, pour qu'on passe après à Canal+, et ensuite à Paradiso ou Paradiso ?
Paradiso.
Paradiso.
Paradiso, c'est un nightclub, je pense.
Peut-être. Il y a un biais.
De la région parisienne.
Peut-être. À l'époque, je sais plus trop ce que c'est.
C'est ça,
Est-ce que tu peux nous dire, peut-être, les principales leçons que tu retires de ton expérience au Studio Bagel ? Peut-être ce que tu as appris, et si jamais tu parlais à Lorenzo, tu vois, quand il crée, et Lorenzo quand il part, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Alors, ça va être deep.
Ça va être deep, c'est le but, mes podcasts sont deep.
Non, le premier truc, c'est que j'étais trop tout seul, en fait. Paradoxe, enfin, je me suis évidemment associé à une boîte, comme je te disais, mais j'étais seul après, une fois que la boîte a été vendue à Canal, j'étais pas vraiment managé, puisque j'étais un peu... Ils considèrent un peu que j'étais un talent, tu vois, parce qu'ils disaient Lorenzo, il tient un peu le truc. Et j'ai pas été managé, tu vois. J'avais pas de. J'avais Ariel Saraco, qui était ma patronne et qui était la patronne des séries, qui est une femme extrêmement inspirante et qui m'a beaucoup appris. Mais j'étais pas assez managé, j'étais pas assez tenu. Mmh. Et j'avais pas assez d'échanges. Donc, si je devais donner un conseil à ce Lorenzo de l'époque, je dirais écoute un peu plus ou entoure-toi de gens qui te donnent des conseils et que tu respectes dans les conseils qu'ils te donnent. Quoi.
Ouais.
Des gens extérieurs, peut-être des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans d'autres domaines. J'en ai pas eu assez, en fait.
Mm.
Et je pense que ça m'a manqué parce que j'ai fait pas mal de conneries, notamment en management. C'est compliqué quand t'as presque l'âge des gens que tu manages, tu vois.
C'est clair.
C'est plus simple, en fait, quand t'as une différence d'âge, parce qu'au final, tu mets une distance.
T'as une espèce de sagesse.
Même pas, mais c'est juste une différence qui fait que c'est la boîte, et c'est pas des potes. Moi, j'étais dans un truc un peu, tu vois, mélange de c'est mes potes, on se voyait le soir, des fois on partait faire des vidéos à Los Angeles ou je sais pas où, on était presque en vacances. Tu vois, c'est bizarre,
ouais,
quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est bizarre.
Donc tu mets pas les limites, t'es jeune, donc t'as pas de cadre au final, vraiment. Et puis tu vis un truc complètement exaltant. Ouais. En fait, t'en profites, quoi. Donc j'ai pas été assez entouré, et je me suis pas assez entouré. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, je pense que j'ai pas été, j'ai pas assez bien communiqué avec mes, avec les gens avec qui je bossais, quoi. Parce que je voulais les protéger. J'étais toujours dans ce truc de, tu sais, un peu comme avec des enfants, tu vois.
Je vais pas leur dire pour les préserver.
Ouais,
quoi.
Voilà. Je vais alors, mais je gérais des trucs. Et au final, je me retrouvais dans des quiproquos ou dans des histoires où même avec certains talents, on a pu se prendre la tête parce que. Parce qu'en fait, ils avaient l'impression que je leur cachais des trucs, mais c'était pas mentir pour leur mentir, c'était parce que je les préservais de certaines discussions, de certaines relations que je pensais qu'ils pouvaient pas comprendre. Mm. Mais c'était là mon erreur, je pense.
Ouais.
Que si j'étais beaucoup plus transparent, j'aurais peut-être moins eu de difficultés.
C'est vrai, voilà. Que j'ai l'impression que ça, c'est un truc interdomaine.
Ah ouais.
Non, mais à chaque fois qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé dans ma vie, c'est parce que je communiquais pas assez.
Ouais.
Mais vraiment, que ce soit dans le perso ou dans le pro,
ouais.
On a tendance à chaque fois à se dire « je vais pas le dire parce que… »
Exactement.
Non, transparence à 100%, j'ai l'impression que ça nous sauvera de bien des choses, quoi.
Et ouais, et honnêteté, et souvent, tu sais… Alors, pour le coup, je bascule du conseil un peu macro à un truc très, très micro, mais genre envoyer des mails pour régler des problèmes, non. En fait, ça fait partie de ce truc-là, de se dire, on va se cacher derrière un mail, on va écrire, tu sais, une page, déjà qui te saoule, hein, de base, quand tu le reçois. Et en plus, c'est très violent, tu vois.
Ouais.
Et donc, ça aussi, gérer les problèmes par mail ou par personne interposée, ou jamais voir les gens se poser et dire. Parce que, franchement, je te mets au défi, la plupart des conflits, si tu te poses avec la personne face à face et que tu mets tout à plat, tu les résous, je pense, en 80% des cas.
Ouais.
Si tu te caches derrière le truc d'envoyer un mail, de faire genre, de ghoster les gens, ça va être de la crème chantilly, ça va monter,
ouais.
Ça va faire tout un bordel, quoi.
Ouais.
Donc ça aussi, c'est ce truc, ce réflexe, je pense que un peu d'immaturité que tu as de vouloir dire c'est loin de moi, tu vois, je veux pas le gérer, jusqu'à ce que ça devienne un problème gigantesque et ouais. Au final, c'est à soi presque un point de retour, quoi.
Ça a été quoi, tu dirais, toi, l'événement le plus difficile que tu as eu à gérer dans ta carrière professionnelle ?
Bah, mon départ de Canal.
Ouais.
Parce que déjà, c'était compliqué de partir parce que Canal avait du mal à me laisser partir et moi aussi, j'avais du mal à partir. Et je pense aussi le côté j'abandonne un peu certains talents, tu vois. Parce que j'étais quand même très proche de deux, j'avais grandi avec eux, j'avais participé à leur succès sur certains trucs. Et c'était comme un peu, tu vois, c'est comme un agent. Je sais pas si t'as vu la saison de 10%, la dernière. En tout cas, cette série parle vachement de ça, du rapport que t'as avec les talents, du rapport un peu pas malsain, mais complexe.
Ouais.
Parce que en même temps, t'as envie d'évoluer, t'as envie de faire autre chose.
Ouais.
Je vais pas spoiler la fin de 10%, mais voilà, t'as envie de faire autre chose et en même temps, les talents, ils ont pas envie, quoi.
Ouais.
Parce que ça leur va bien, en fait.
Ouais.
Que tu t'occupes d'eux.
Ouais.
Et que tu fasses, que tu sois dédié à eux. Mais toi, t'as envie de faire autre chose, en fait.
Ouais.
Donc ça a été compliqué.
Ça doit être difficile à vivre, je trouve, la période où tu commences à avoir une autre idée, mais tu pèses le pour et le contre, t'en parles autour de toi, chacun a son avis. Comment t'as vécu cette période et qu'est-ce qui t'a décidé à changer ? Parce que, encore une fois, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on a tendance à soi-même se mettre des barrières en mode, je peux pas abandonner ce que j'ai fait, alors que le but, c'est d'être épanoui, quoi.
Ouais. Bon, déjà, parce que j'en avais, je pense, assez, tu vois, ça faisait 5-6 ans que je faisais ça, donc j'avais envie de changer d'air, clairement.
Ouais.
Donc ça, c'est une raison basique, mais c'est quand même important de préciser. Deuxième truc, c'est, je pense que, c'est comme quand tu écris une histoire. On en parlait pendant le cours, je disais, pour écrire une histoire, il faut déjà avoir un thème de l'histoire qui résonne avec toi, qui résonne avec ce que tu as vécu et qui est important pour toi.
Mmh.
Une histoire, c'est quelque chose qui t'aide à comprendre quelque chose. Donc si tu écris sur un thème qui te plaît et qui t'inspire, ça t'aide à comprendre quelque chose sur toi-même. Donc moi, le podcast, c'était clairement une réaction, je pense, aussi au flot de vidéos que je venais de mettre en ligne, parce qu'on a fait, je sais pas combien de milliers de vidéos en 6 ans, avec plein de chaînes différentes. Donc,
ouais.
À l'inverse de ça, à contrario, le média audio qui est très calme, tu vois, et beaucoup moins frénétique, me posait. et me mettait moins la pression au final. Donc j'avais besoin de ça, et je pense que le biorhythme, si tu veux, de l'audio me correspondait bien par rapport à ça. Et puis le troisième truc, c'est la rencontre avec mes associés, parce que pour le coup, c'est pas un travail que tu fais tout seul. Et je pense que là aussi, je reviens au point que je disais au tout début, c'est quand tu vois dans les autres une confiance qui grandit sur ton propre projet. C'est grâce aux autres aussi que tu arrives à prendre confiance, des gens bienveillants évidemment, qui te disent bah franchement ouais, tu devrais tu vois. Et donc j'ai rencontré un garçon qui est éducateur, qui s'appelle Fabien, il y a pas très longtemps, donc avec qui on travaille sur un projet d'ailleurs de podcast, qui me disait un truc super intéressant. Il disait: la valorisation, c'est une énergie renouvelable. Donc je le cite, Fabien, et c'est ça en fait. Quand je te valorise, je te dis c'est super ce que tu fais, t'es hyper forte dans ce que tu fais, t'es hyper puissante, c'est génial, t'es hyper intelligente, ça te fait du bien, si tu penses que je le pense, et du coup ça va te booster quoi. Et ben c'est pareil, là j'ai rencontré des associés qui m'ont dit bah c'est super, je pense qu'on croit tous dans la même projet, et ça nous a, ça une crée une énergie quoi. Ouais. Parce que comme tu disais, c'est bien d'avoir l'idée, c'est bien d'avoir l'étincelle, de se mettre à recruter des gens et ça, mais ensuite, quand les problèmes arrivent, bah c'est à ce moment-là qu'il faut être solide et avoir la motivation et continuer de croire au truc, quoi.
Et du coup, c'était quoi votre idée de départ avec Paradiso, et est-ce que ça a changé pour le coup, ou est-ce que vous avez vraiment mis en œuvre votre idée de départ qui était dans vos têtes?
Notre idée de départ, c'était d'arriver sur, dans l'univers du podcast qui est très... déjà investi de plein de talents qui font surtout du talk, comme ce que tu fais, et chacun à sa manière. Et nous, on voulait pas arriver et faire la même chose, quoi. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens, et c'était surtout très talent orienté. C'est-à-dire que je pense que les gens qui t'aiment t'écoutent, et il y a des gens qui te connaissent pas qui vont te découvrir. Mais c'est, je pense avant tout, ça vient aussi de ta communauté et de ce que tu projettes. Nous, on avait envie de faire un studio qui était plutôt tourné autour des histoires, donc du narratif.
Ouais.
Donc, comme tu sais, c'est un peu ma marotte. Et donc, on s'est dit, il n'y a pas grand-chose en fiction, il n'y a pas grand-chose en documentaire, un peu comme on appelle ça, des séries limitées, tu vois, un peu comme sur Netflix, tu vois, grosso modo. Et on s'est concentré là-dessus avec un troisième pilier qui est la jeunesse, où là aussi, on s'est dit, il n'y a pas grand-chose de très notable. Donc, on s'est concentré sur un studio de podcast narratif, c'est comme ça qu'on se définit. Et je pense que si on doit définir une ligne éditoriale, on est quand même passionné par le réel et les histoires du réel. Et il y a des histoires du réel qui sont incroyables. Tu vois.
C'est vrai.
Donc il y a des podcasts qui ont bien fait ça, comme Transfert, dont tu me parlais avant de commencer à Rec. C'est une des inspirations, évidemment, mais nous, on essaye d'aller un peu plus loin dans la forme et de s'éloigner du format témoignage. On a fait des productions qui sont à base d'archives, avec des multiples couches de récits sonores. À titre d'exemple, j'invite les gens qui vont écouter ça à écouter Mes 14 ans, qui est un podcast qu'on a lancé cet été, qui est sur l'histoire de Lucie Michaelian, qui a retrouvé son journal intime de quand elle avait 14 ans. Et donc, elle en parle aujourd'hui. C'est une femme de 30 ans, elle est journaliste, et elle porte un regard à la fois, plein de tendresse, et en même temps, un peu surpris et interloqué sur les réflexions que cette jeune femme de 14 ans avait à l'époque sur sa sexualité, sur la naissance de son désir. Et donc, elle se met à réfléchir à tout ça. Et donc, c'est très intéressant, ça questionne beaucoup de choses. C'est évidemment un podcast très féministe, et donc, c'est de ça dont ça parle aussi. Donc ça fait partie des projets qui sont un peu les projets phares qu'on a fait cette année, et donc c'est produit par une productrice qui s'appelle Jeanne Boézek, et ce podcast, il est aussi intéressant dans sa forme, parce qu'on a mélangé à la fois une comédienne, tu vois, qui jouait le rôle de Lucie quand elle avait 14 ans, et Lucie qui raconte sa propre histoire avec des archives et tout ça. Et donc nous, ce qu'on aime bien faire, c'est ça, c'est raconter de manière un peu, avec des couches un peu complexes, une histoire qui a un début, un milieu, une fin, et un peu moins être dans un truc de salut, c'est mon podcast, et puis chaque semaine, je vais vous raconter une histoire avec une nouvelle personne.
Ouais, je comprends. Ouais, c'est un parti pris qui est différent. Et je me demande parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent se demander ça, et je sais que c'est une question que je reçois souvent, à laquelle je ne peux pas vraiment répondre, étant donné que moi, c'est différent. Comment vous faites connaître ces podcasts, sachant que vous n'avez pas forcément de visibilité à la base, que même si vous avez de l'expérience, ça ne veut pas dire que des gens derrière vont écouter.
Bien sûr.
Je pense que c'est une vraie question, surtout que votre format est quand même hyper novateur.
Bah, c'est une très bonne question, et c'est une des premières questions qu'on s'est posées, et c'est pour ça qu'on est allé voir les plateformes. Les plateformes Spotify, Deezer, Cybelle, Audible, qui sont les principales plateformes audio aujourd'hui qui distribuent de l'audio, et donc qui ont des milliers et des millions d'abonnés déjà acquis, quoi.
Ouais.
Et donc, on a travaillé avec ces plateformes. Donc, on est allé les voir avec des propositions,
ouais.
Parce qu'on s'est dit, elles vont nous aider. Nous, on arrive avec des programmes et des idées qui sont un peu plus travaillées, qui demandent parfois un budget important. Donc, elles ont intérêt justement à recruter des nouveaux... des personnes qui écoutent de la musique sur Spotify et qui vont écouter des podcasts maintenant, ou des personnes qui écoutent du livre audio sur Audible et qui maintenant vont écouter des podcasts, tu vois.
Ouais.
Typiquement, c'est un peu ce qu'elles cherchent, si on fait un peu de la stratégie des plateformes. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc, on a fait ça. Et ensuite, comme il n'y a pas de réseau social audio...
Pas encore,
mais...
on lâche des idées.
C'est ça, une idée de business. Je crois que Twitter a annoncé qu'ils allaient faire des tweets audio, d'ailleurs. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu ça. Bon.
On verra s'il y aura moins de haine et d'insultes.
Ouais, c'est ça. Ce sera pire, ce sera verbal maintenant.
Ouais.
Et donc, du coup, effectivement, on s'appuie aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on fait des campagnes, on fait des éléments, on fait de la vidéo, on fait de la photo. Et on essaie de développer l'audience de nos programmes comme ça. Et après, le troisième levier, c'est la presse.
Okay.
Qu'on travaille comme si c'était un programme, quoi.
Ouais,
comme
ouais.
si on lançait un film ou une série.
Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Et pour le moment, ça nous réussit bien parce que les audiences ont été au rendez-vous. Et je pense que à partir du moment où tu proposes quelque chose de différent aussi,
ouais.
enfin ça rend curieux l'audience et ça fonctionne.
Ouais. Le dernier point que je voulais aborder sur la partie pro, après on passera plus au perso, c'est du coup tu me disais que vous avez décidé de créer le studio Paradiso à Paris et à Los Angeles.
Ouais.
Pourquoi?
Parce qu'on est complètement mégalomane et que du coup on est fou.
On voulait conquérir le monde.
Ouais, c'est ça. Non, parce qu'en fait, le modèle sur lequel on est basé, comme je te disais, de faire des histoires et de faire des podcasts narratifs, c'est un modèle qu'on aurait tort de limiter à la France. Mmh. Puisque comme les histoires qu'on développe sont des histoires assez universelles, l'histoire que je t'ai racontée sur Lucie, c'est une histoire qu'on pourrait raconter dans plein d'autres langues.
Mmh.
Alors après, il y a des différences culturelles, il y a tout ce que tu veux.
C'est ça, ouais.
Mais c'est
ouais.
une histoire qui peut parler à une Américaine ou un Américain. Ou un Allemand. Donc, cette année, on va lancer des podcasts en multilingue.
D'accord.
Donc, c'est un peu la nouveauté de 2021, on va faire ça. Donc, on va lancer une série de fiction en quatre langues, on va lancer plusieurs programmes aux États-Unis simultanément et en France.
Mm.
En fait, la première année, on a appris, on a travaillé beaucoup avec les plateformes.
Ouais.
Et la deuxième année, on va essayer d'un peu plus, toujours travailler beaucoup avec les plateformes, mais distribuer nos propres podcasts.
Ouais.
Et surtout... de le faire, vu qu'on investit, du coup, sur cette partie-là, parce que c'est nous qui payons les podcasts, on va essayer de le faire en plusieurs langues. Donc, okay. C'est pour ça.
Trop cool. Mm. Du coup, sur une autre des casquettes qui est du coup professeur, ça m'intéresse quand même de savoir qu'est-ce que tu as pu observer chez tes élèves. Donc, tu as donné que des cours en Master 2.
Mm-hmm.
Donc, bon, c'est quand même les élèves qui sont plutôt à la fin de leurs études. Mais est-ce que tu as remarqué notamment peut-être des écueils ou tu vois, des comportements fréquents où tu as envie de t'adresser là, à tous les étudiants potentiels qui nous écoutent?
Non, franchement, je trouve... Enfin, encore une fois, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Vous êtes extrêmement courageux. Enfin, c'est très dur là, ce qui se passe, je pense. Vous n'avez aucun contact avec vos camarades. Vous ne pouvez pas travailler en groupe. Vous travaillez chacun de votre côté. C'est très dur, je pense. Vous pouvez tous les entretiens que vous faites. Moi, en ce moment là, on a des stagiaires à Paradiso. On a deux trois stagiaires. C'est compliqué, quoi. Tu es en stage, mais t'es derrière un Zoom chez toi.
Mmh.
T'apprends forcément moins.
Ouais.
Donc, déjà, j'aimerais dire vraiment bravo à tout. Enfin, déjà à votre groupe et à, je pense, toute votre génération. C'est quand même assez dingue ce qui est en train de se passer. Et vous résistez, vous continuez de faire des trucs. Je suis assez dégoûté par le côté très critique, en fait, de « Ah ouais, vous faites la fête, ah ouais, vous portez pas de masque, tout ça, en fait, allez vous faire foutre. » Tu vois, j'ai envie de te dire. Non, mais je veux dire, vivez ce que j'ai vu cette génération. Moi, j'ai deux enfants de 12 et 8 ans, et tous les jours, ils vont à l'école, ils ont des masques, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même compliqué, psychologiquement, et de tenir, quoi. Et pourtant, tout le monde est hyper résilient, et voilà, et tout le monde est bon soldat, entre guillemets, et va au boulot, et continue de travailler, et continue de... Donc, voilà, donc, juste... faut faire un peu, enfin, à mon sens, le message que je vous envoie, c'est juste soyez fiers un peu de tout ça, faites retomber la pression. Et après, non, moi, je déplore juste... Moi, je donne des cours parce que ça m'intéresse de rencontrer des gens. Donc là, je suis content qu'on se rencontre. C'est la première fois qu'on se rencontre, pour le coup. Parce que j'ai soit pour collaborer, soit pour être en stage, etc. Et c'est pour ça que je fais ça, en fait. Pour aussi être en contact avec cette nouvelle génération. Parce que j'ai pas tant d'occasions que ça, quoi.
C'est vrai.
De l'être.
Ouais.
Donc je fais ça pour ça, et après je fais aussi ça un peu pour me faire violence, parce que ça me force à apprendre des trucs, et je peux pas y échapper, quoi.
Mm.
Tu vois, j'ai un rendez-vous avec 25 personnes,
ouais.
Et je peux pas échapper à ça, tu vois. Donc il faut que je prépare un cours, il faut que je sache dire un truc. Et c'est voilà, et c'est ça qui est excitant aussi, ouais. Parce que c'est dur quoi de se lever. Moi en plus, mon, comme tu sais,
putain, on avait cours le lundi à 8h.
Lundi 8h 10h, donc voilà, c'est un truc un peu de warrior, mais j'aimais bien. J'aimais bien ce petit moment comme ça le matin où j'arrivais la nuit dans mon bureau et je me mettais à m'installer et tout ça. J'aimais bien ce moment-là. Donc et ça m'a aussi permis de verbaliser des choses que je, comme toujours d'ailleurs, je pense quand tu verbalises, quand tu écris ou quand tu parles, tu comprends des choses.
C'est vrai.
Et ça m'aide aujourd'hui dans mon boulot de donner des cours. Parce que tout ce qu'on on apprend, tout ce qu'on discute dans le cours, c'est des choses qui sont...
Ça nourrit
mon taf.
Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils alors à donner aux étudiants qui nous écoutent par rapport à la situation actuelle ou non, mais juste, tu vois, peut-être si... Bah ouais, s'ils sont en dernière année d'études et qu'ils ne savent pas forcément où ils veulent aller, ou sur comment solliciter les recruteurs vu que tu en es un
Moi, il y a deux choses que je retiens, enfin que je me dis, que j'essaye de faire d'ailleurs moi... je pense que avoir un projet qui te permet de rencontrer des gens, ça va être de plus en plus compliqué, je pense, de faire des entretiens, d'avoir, parce que déjà c'est, enfin, voilà, tout est à distance et les gens ont, en fait, je pense que les gens ont même moins de temps qu'avant, enfin presque, parce que déjà il y a le couvre-feu, donc tout le monde est un peu stressé, etc. Donc je pense que contacter les gens avec un projet, c'est toujours mieux que de contacter les gens dans l'absolu, de dire je cherche un boulot. Donc essayez de trouver une espèce de ruse pour que ça soit un papier que vous écrivez sur Medium. Les gens, ils croient que Medium, c'est peut-être une publication. Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Enfin, surtout les gens qui sont de mon âge ou plus vieux. Donc, trouver un but pour rencontrer les gens et en même temps apprendre, faire un podcast, tu vois, etc. Ça, c'est un truc, je pense, super intéressant. Et après, l'autre truc, c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est un conseil que je m'applique de plus en plus. Je regarde mon agenda et je me dis, c'est un enfer, ma semaine. Et j'ai absolument aucun moment pour prendre 2 heures pour faire que bosser sur un projet. Et donc, j'ai un bouquin que j'aime bien, d'ailleurs, qui m'a été recommandé par un autre podcasteur dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Antonin Archer, qui avait un podcast qui s'appelle Nouvelles Écoutes. Et il m'a recommandé un bouquin qui s'appelle Deep Work. Deep Work de Cal Newport. Et en fait, sa théorie, c'est d'expliquer qu'on a besoin de s'ennuyer ou on a besoin de moments où, en fait, vraiment, on met son téléphone dans un placard fermé à clé.
Son lui, il le faisait, je crois, d'ailleurs.
Ouais, Antonin, il avait même acheté une boîte que tu peux acheter, je crois, sur Internet, quoi. Une boîte où tu peux mettre ton téléphone avec un code et, en fait, ça, tu peux pas l'ouvrir avant 2 heures, tu vois.
Ouais. Ouais.
Du coup, c'est impossible.
C'est le truc ultime des gens qui retombent toujours dans le piège.
C'est la détox forcée.
Ah ouais, j'avais entendu ça, je m'étais dit putain, on arrivait à là. Et puis en fait, aujourd'hui, je me dis, ça peut servir de temps en temps.
Et là, tu vois, je l'ai fait, j'ai bloqué dans mon agenda. Alors moi, j'ai fait même extrême, puisque j'ai fait 3 jours dans ma semaine, la semaine dernière, où je suis allé dans ma maison de campagne avec un pote avec qui on écrit un projet en ce moment. Et on s'est enfermé pendant. Je faisais quand même 2 heures de mail, de coup de téléphone par jour, mais sinon, le reste du temps, on travaillait sur le projet. Et on n'était pas sur notre téléphone, on discutait, on écrivait sur des cahiers, évidemment sur un Google Drive, ok, on va pas se... Voilà. Mais,
à la plume.
Mais c'est ça, la plume.
Au parchemin. Ouais,
mais du coup, c'était... Franchement, je reviens de là, je suis... ça m'a fait beaucoup de bien, en fait.
Franchement, moi, j'aimerais trop, franchement, pour tout te dire, j'aimerais trop, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'opérationnel. Je pense qu'on peut quand on a une plus grande équipe. Moi, si je me casse 3 jours, tu vois, c'est
foutu. Qu'est-ce qui peut se passer? Tu vas juste prendre 3 jours de retard sur tout ce que tu as à faire. C'est pas grave. Au pire, tu t'expliques aux gens que tu sors pas une vidéo, que tu sors pas un podcast, tu sors pas. C'est pas grave. Les gens.
Moi, c'est une charge mentale.
Oui, oui, mais du coup, enfin, alors je veux pas te. Moi, je me souviens, j'étais au festival Frames. Je sais pas si tu vois.
Ça me dit quelque chose.
C'est un festival à Avignon où il y a pas mal d'influenceurs et de talents qui parlent. Et moi, je me souviens d'avoir incité à une table ronde sur les youtubeurs en burn-out. Bon, je
merci.
Les doigts. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, t'es quand même dans ce truc où t'as ta communauté et ça te pousse et tu dois faire une vidéo et tu dois... tu le fais quand même à la base pour te faire plaisir, quoi.
Ouais,
et pour aussi véhiculer des messages qui sont importants pour toi, évidemment. Mais c'est un plaisir, quoi. Et à partir du moment où ça commence à devenir un stress et une angoisse et...
une pression,
et une pression,
c'est plus,
et une charge mentale. Enfin, voilà, c'est...
Après, j'ai fait 3 jours de retraite silencieuse. Donc,
oui, c'est vrai, t'en parlais.
Ouais.
Et du coup, ça t'a...
En fait, c'était top sur le moment, hyper apaisant. Je vois pas trop pour l'instant les bénéfices du long terme.
Mais genre, t'as vraiment pas parlé pendant 3 jours.
J'ai pas parlé pendant 3 jours.
Mais t'avais ton téléphone quand même?
Non, j'ai pas utilisé mon téléphone pendant 3 jours. J'ai lu, on avait quand même le droit de lire, c'est pas le cas dans toutes les retraites. J'ai écrit. Il y avait des gens qui parlaient via des talks.
Et tu mangeais une pomme et un thé ?
Ah non, heureusement, il y avait beaucoup à manger. Je peux dire, j'étais la première au buffet tous les jours. mais c'était une très belle expérience. En gros, ça m'a quand même fait réaliser qu'en effet, je peux. Et c'est déjà beaucoup, tu vois. Donc maintenant, l'idée, c'est plus de le tenir dans le temps. Mais je pense que juste la période n'aide pas, tu vois. C'est de dire, franchement, le confinement, c'est là où j'ai frôlé le burn-out. Parce que j'étais là. En fait, déjà, c'était mon stress c'était dur, ultime. C'était d'être, de m'ennuyer. C'était le stress de ma vie. Je vais mieux maintenant. Et du coup, j'ai comblé. Mais les gens prenaient du temps pour eux. Moi, j'ai fait l'inverse. C'est vraiment, il y a un moment, je me suis dit, je voulais faire une vidéo par jour à la base pendant tout le confinement. Au bout d'une semaine, quand j'ai vu que tout le monde postait, genre, c'est le moment de slow down, et moi qui étais là à 2h du matin au stress de pas sortir ma vidéo du lendemain, je me suis dit, Louise, ça sert à rien en fait ce que tu fais, tu te fais pas plaisir justement. Et j'en ai fait moins, et j'en ai quand même fait deux par semaine à peu près, tu vois.
Et puis de réaliser que les gens ne voient pas tout. Non mais tu vois, c'est-à-dire que les gens ne voient pas la totalité des contenus que tu fais.
En plus, c'est clair.
Parce que toi tu les postes et toi tu les regardes jusqu'à la dernière. Mais les gens, ils ont pas, enfin, la complétion totale de toute l'œuvre de Louise, elle est malheureusement pas. Je suis désolé de te l'apprendre, mais
allez voir les vidéos que je n'ai pas encore vues.
Tu devrais peut-être trouver un fan ou une fan qui ait absolument tout vu de ce que tu as fait.
Je pense qu'il y en a.
Peut-être, mais en tout cas, voilà, je pense que.
Mais bon, c'est pas la majorité, c'est clair. Bon, du coup, j'ai trois petites dernières questions pour toi. D'abord, une question que j'aime bien poser, c'est comment est-ce que tu progresses?
Justement, en essayant d'appliquer des leçons que je chope à la volée. Donc typiquement, cette espèce de concentration deep sur un projet, c'est quelque chose que je pense qui me fera progresser. Être moins dans une gesticulation, de choper toutes les opportunités, etc., plus se recentrer et se dire « Ok, ça, j'ai vraiment envie de le faire. » Du coup, de fonctionner un peu par liste. Donc tu vois, depuis quelques temps, je me fais des listes de trucs qui sont importants que j'aimerais bien arriver à faire. Là, tu vois, typiquement, c'est un peu... c'est bateau, ce que je dis, mais je pense que c'est pas con de se donner des objectifs, quoi.
D'accord.
Tu vois, voilà, c'est un peu comme ça que j'essaie de progresser.
Ok, top. Ensuite, est-ce que, si jamais tu pouvais choisir quelqu'un que tu écouterais au micro d'InPower, ce serait qui?
Ah, c'est compliqué, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Je pense à deux personnes avec qui on commence un peu à travailler, qui sont Annika et Jessica Horn, qui sont donc les filles de l'explorateur, du navigateur connu, Mike Horn, qui a fait le tour du monde par l'équateur, qui a fait énormément de choses. Mais en fait, elles aussi, elles sont extrêmement courageuses et elles font énormément de choses et d'exploits. Et elles ont à la fois, donc, dans l'entrepreneuriat, puisqu'elles gèrent un peu les histoires et tous les projets de Mike, et en même temps, elles-mêmes, c'est des athlètes. Et je pense que ça serait des... En plus, je crois qu'elles s'intéressent pas mal au podcast. Donc, ça serait des personnes assez inspirantes pour ta communauté. Elles parlent français, elles parlent anglais. Donc, tu pourrais même faire un épisode bilingue pour la première fois.
Trop
voilà.
Cool.
Donc, je sais pas si ça
t'inspire. Ok, merci pour la recommandation. Et du coup, je te pose la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
S'écouter. Voilà.
En un mot. Tu peux développer un petit peu comme ça, les gens savent ce que tu veux dire derrière.
Je pense qu'être en connexion avec vraiment ce qui nous plaît, ce qu'on est, c'est une quête qui est vraiment. C'est pas facile, quoi, de s'écouter. Pour s'écouter, il faut savoir vraiment ce qu'on aime, qui on est. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est un peu la poupée russe grande taille. Et puis après, dedans, t'as plein d'autres questions et plein d'autres trucs pour trouver vraiment la plus petite des poupées. Mais s'écouter, je pense que c'est la base, vraiment.
Ok, trop cool. Merci beaucoup Lorenzo d'être venu derrière le micro cette fois-ci. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi et ensuite sur Paradiso, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Paradiso sur Instagram et puis moi sur Instagram aussi.
Ok, d'accord. Simple. C'est cool, je pensais que tu allais dire LinkedIn, tu vas très corpo, mais non, Insta.
Non, j'ai une photo de moi et mes enfants sur Instagram, donc ça me définit bien.
Ouais, ok, trop cool, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à bientôt.
Merci, à bientôt aussi.
Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Lorenzo. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @lorenzoben et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes les meilleurs et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.